jase.
13h05 minutes. L'émission. Il reste 55 minutes avant notre week-end. Ceux qui travaillent le vendredi après-midi doivent vous rester à peu près 1-3 heures de travail. Sinon, c'est le week-end. Puis aujourd'hui, 7 degrés, donc il devrait avoir de la pluie d'ici la fin de la journée. 6 degrés généralement nuageux pour samedi et 9 degrés ensoleillés pour dimanche. Et normalement, on va repartir sur une ride de pluie au début de la semaine prochaine, mais avec des températures à la hausse à 12 et 10 degrés Celsius. Je vous rappelle, 16 heures, dans le retour de Gravel, c'est Pierre Houde qui sera là. Pierre Houde qui a décrit le 50e but de Cole Caulfield qu'on va écouter dans quelques instants. Mais avant de faire triper Lambert Drainville, comme on le fait triper mercredi, Pascal CV, on n'a pas le choix. Faut que tu nous racontes les nouvelles dans l'actualité, notamment les nombreuses missions de Bruno Marchand.
C'est 3 missions internationales de plus pour le maire Marchand cet été. Donc oui, ça en ajoute beaucoup à son calendrier. Puis l'affaire, c'est que c'est pas mal tout dans le même pain. Alors d'ici la fin du mois de juin, on s'en va en Croatie, en Espagne, aux États-Unis, en Belgique et en Italie. Ça fait frissonner certaines personnes qui, avec les travaux préparatoires du tramway, puis les travaux du tramway, où sera notre maire. On se défend un peu comme quoi on est dans le conseil d'administration de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Donc c'est pour ça qu'on s'en va en Croatie du 23 au 25 avril. Et on a dit qu'on allait travailler pour les citoyens dans ces missions à l'étranger. Là. L'affaire, c'est qu'il y en a certains qui disent on aimerait mieux vous avoir ici pour travailler sur ce qu'on a sur notre réseau routier puis les problématiques que l'on rencontre à chaque jour. C'est pas mal le dossier qui fait énormément jaser aujourd'hui quand je regarde les critiques de tous et chacun. C'est qu'il y en a qui se demandent si aussi ça va rapporter. Alors, le prix que ça va coûter versus ce qu'on va aller chercher en gain économique.
Pour ceux qui l'ont manqué, ça va se retrouver sur le blvd.fm. Mathias Turcotte qui nous a fait un dossier dès le début de l'émission, les Toasts Chrome de Bruno Marchand qui a tenté de défendre ses missions tout à l'heure.
Et on en parle aussi parce qu'hier, c'était près de 1000 personnes qui se sont présentées à l'activité porte ouverte de la Ville de Québec concernant le projet de tramway. C'est à l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy et on était invités pour poser toutes sortes de questions sur le projet de tramway. Il y avait beaucoup de questions. C'est peut-être là aussi où le nerf de la guerre se fait dans la critique face à l'administration Marchand. On dit, bon, il a fait acte de présence, il a rencontré des gens. Lui, il dit que c'est des gens qui veulent comprendre. Il n'y avait pas vraiment de critique négative. Sur le terrain, c'est un peu un autre pouls qu'on avait. Des gens qui se demandent même ce qui va se passer. Il y a des commerçants qui se sont présentés. On sent qu'il y a peut-être une petite lacune là, au niveau de la communication à ce niveau-là. Puis le projet de tramway, c'en est un qui divise beaucoup hein, en ce moment. Itinérance qui a augmenté de 20 % dans la capitale nationale depuis 2022. Ce sont des données du ministère de la Santé. Ça a été dévoilé hier. 1084 personnes en avril 2025 sont en situation d'itinérance qui ont été recensées. 164 de plus qu'au dénombrement précédent. C'est difficile. Puis la région affiche un taux de 132 personnes itinérantes par 100 000 habitants dans la moyenne provinciale. Je peux aussi vous parler d'une section du Quai Paquet à Lévis qui va rester fermée cet été. Les activités qui sont en relation avec les grands feux l'Auto-Québec, le festivière de Lévis aussi, devraient avoir lieu sur le site. C'est un magnifique site. Les gens commençaient beaucoup à l'apprivoiser, mais là, on est en attente de résultats d'une inspection sous-marine parce que ben, ça ne sera pas ouvert pour son entièreté de l'été et c'est une situation qui ne permettra pas aux croisiéristes d'accoster à Lévis. On le savait, mais on a encore plus d'informations. La programmation estivale du quai va être impactée par la vétusté de la structure d'acier. Elle est âgée de plus de 75 ans. Artemis, c'est une bonne nouvelle aussi qu'on a pour cette mission-là. On devrait revoir les astronautes sur Terre à la fin de la journée. L'amérissage est prévu pour 20h07 dans le Pacifique. Et je vais vous parler en terminant de Mark Carney, parce que le premier ministre du Canada s'est engagé d'ailleurs à ce que son prochain gouverneur général soit bilingue. Encore une question de français aujourd'hui dans les dossiers politiques.
Hier, au Centre Bell.
On voit la Suzuki. Caulfield s'avance.
Cole Caulfield qui a animé le Centre Bell. Le Canadien l'emporte 2-1 contre le Lightning de Tampa Bay. Le Canadien est seul au deuxième rang de la division Atlantique. Lambert Drainville, as-tu encore les frissons quand tu entends la description de Pierre Houde?
Ah, absolument. Puis je pense que c'est un...
Je pense que c'est un segment qu'on va entendre à maintes reprises au courant des prochaines années, des prochaines décennies. Rien ne remplacera une description d'un moment aussi important qu'une description à la Pierre Rude. Et j'espère. Ce qui est dommage, je pensais à ça hier soir, c'est que je pense que les droits de diffusion, les séries éliminatoires sont à TVA Sport.
Oui, hein, en effet.
Oui, c'est ça qui est un petit peu dommage de savoir que possiblement, même. Déjà, faudrait qu'on puisse vivre une Coupe Stanley. Je pense que Pierre Rude mérite à ce qu'on gagne une Coupe Stanley avec lui à la description. Mais même si on la gagnait, ce ne serait pas lui. Je trouve ça un petit peu triste. Mais écoute, pour la soirée d'hier, il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien qui unit une nation comme une joute de sport comme ça. C'était absolument fantastique.
Ah oui, Farnell Morisset, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça?
C'est quelque chose que tout le monde va un peu vivre à sa propre façon. Je pense que tout le monde va se rappeler comment eux ils l'ont vécu. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale hier soir c'était le Parlement des jeunes. C'est une espèce d'événement qui est organisé.
On reconnaît notre Farnell. Ouais,
t'sais, moi, j'aime venir, t'adore. J'aime aller ces choses-là, parler aux jeunes, voir des gens qui sont super branchés. Et puis, j'étais à une espèce de commission parlementaire simulée avec des jeunes du secondaire 3-4 et assis avec les accompagnateurs de l'école. Puis tout le monde était sur son téléphone. Quand le but a été annoncé, c'est comme s'il y a une espèce de courant électrique qui était passé dans le banc de tous les accompagnateurs qui étaient. Ils sont tous dit: ah, c'est fait, ils ont eu son but. Alors, moi, je l'ai vécu de même, puis je trouve que c'est une belle façon de le vivre.
Vraiment,
aussi,
la province était branchée sur le Canadien de Montréal. Hier, d'un, c'est un match important, puis de deux, ça faisait trois matchs qu'on attendait ce fameux 50e but de Cole Caulfield. Donc, il n'y a pas de doute que ça a marqué les esprits. Et tu l'as dit, Lambert, le sport est tellement rassembleur. Quand on écoute un peu Cole Caulfield, première étoile. Ça crie tellement. On a de la misère à entendre Michel Lacroix. C'est complètement fou ce
son
qui s'est vécu.
Son père dans les estrades.
Ah oui,
c'était tellement touchant. Oh, là. Oui. C'était un beau moment qu'il vivait sans être avec son fils, mais en étant avec son fils, on dirait que c'était spécial. Tu vois, la puissance de l'amour.
Oui, exactement. Non, c'était un très, très, très beau moment. Très touchant. 418-971-1021, vous étiez où? Comment vous avez vécu le 50e but de Cole Caulfield? Vous êtes énormément réagi depuis le début de l'émission. Vous avez réagi plusieurs personnes qui ont peur de suivre les camions, justement, à la suite du reportage de Pascal qui s'est entretenu avec Nathalie Poulain, cette mère éplorée. Plusieurs personnes qui ont réagi concernant l'émission trop importante en nombre de Bruno Marchand. Et là, on a eu un excellent texto, les gars, puis ça va nous lancer dans le vif du sujet. Logiquement, Jeff, un transfuge devrait passer par une élection partielle pour le faire. Ça va faire. Les caméléons, on rentre justement dans le vif du sujet, c'est-à-dire ces transfuges qui partent du Parti conservateur ou du NPD pour aller joindre les rangs des libéraux. Et Mark Carney va se faire une majorité à coup de transfuge et non pas à coup de vote électoral. Vous en pensez quoi de la suggestion d'Éric Farnell? Je commence avec toi.
C'est une suggestion qu'on voit souvent, puis je comprends parfaitement le sentiment derrière. Là. Moi aussi, je serais très fâché que si j'ai voté pour un député dans l'attente parfaitement légitime qui respecte le programme de parti, que ce député-là, après ça, vire de bord. C'est fâchant. La difficulté, c'est comment est-ce qu'on exécute sur un genre de règlement du genre. Dire, il faut qu'il y ait une élection partielle si un député quitte son parti ou si, par exemple, un député, il peut siéger comme indépendant, mais pas besoin d'un autre parti politique. La difficulté, c'est qu'un parti politique, fondamentalement, c'est juste un groupe de personnes qui décident de se coordonner sur de l'activité politique. Puis oui, on peut mettre le label qu'on veut là-dessus, mais je veux dire, comment est-ce que tu fais pour empêcher quelqu'un de coordonner avec quelqu'un d'autre, surtout en politique où ils sont supposés coordonner ensemble? Je veux dire, tu vas bloquer l'accès à quelqu'un à la salle du caucus d'un autre parti. Tu vas dire, toi, tu n'as pas le droit de rentrer parce que tu n'as pas été élu pour t'asseoir avec ces gens-là quand ils se discutent. Est-ce qu'on va commencer à scruter les courriels des gens pour savoir est-ce que tu as coordonné ton intention? Tu sais, fondamentalement, les députés sont supposés avoir un certain jugement, puis peut-être qu'il y a une absence de jugement dans certains cas, là, je suis prêt à le dire, mais sont supposés être capables d'user ce jugement-là pour dire qu'est-ce qui est vraiment dans le meilleur intérêt de mes électeurs. Imaginons si c'était l'inverse. Imaginons s'il y a un chef d'un parti politique qui perd complètement la map, là, qui commence à faire des choses totalement contraires à son propre programme électoral, qui va dans des directions qui n'ont rien à voir, mais que par la nature d'un parti politique, il y a quand même les appuis de sa base militante, disons, hyper radicalisée, propre à ce chef-là. Bien, il faut que les députés soient capables de se dissocier d'un parti si, dans leur jugement, le parti a perdu le Nord. C'est juste que comment on fait pour garder cette protection-là tout en ayant une protection que les députés vont correctement suivre le mandat qu'on leur a donné. Et il n'y a pas de solution facile à ça. Ça ne peut pas être aussi simple que dire « t'as pas le droit de te joindre à un autre parti ». Ils vont juste siéger comme indépendants et être membres de ce parti en tout sauf en nom, comme le faisait par exemple André Arthur. Il n'y a pas de solution évidente. Aux États-Unis, ce qui se fait, c'est quelque chose qui s'appelle des « recall elections ». Ou s'il y a suffisamment d'électeurs qui le demandent, tu peux avoir une nouvelle élection partielle à la demande des électeurs pour essayer de...
Donc, suivant ta logique, dans Sarnia, avec le départ de Marilyn Gledu pour les libéraux, il pourrait avoir suffisamment d'électeurs qui signent un document virtuel, puis là, on sera obligé d'aller en élection partielle.
Ben, c'est une façon de le voir. La difficulté qui vient avec ça, c'est que je ne crois pas qu'elle a été élue avec une majorité absolue. Alors, potentiellement, si tous les électeurs de cette circonscription-là qui ont voté pour le candidat libéral, le candidat NPD, seraient d'accord pour dire « Ouais, ben tu sais, dans le fond, moi, je suis pas mal plus content d'être représenté par quelqu'un qui est membre du caucus libéral.
Ah,
tu
n'es
pas capable
comprends.
D'aller chercher la majorité. »
Ouais, je comprends. Lambert Drainville, ton opinion là-dessus?
Je suis un petit peu à la même place que Farnell. Je l'ai souvent dit par rapport à notre système. Moi, je suis souvent dans la vie qu'on est dans le système le plus parfait de tous les systèmes imparfaits. Un système dans lequel, qui est basé sur le fait que présentement, les électeurs, ben, ils votent pour un député, ils votent pour une personne, mais au fil du temps, la réalité est devenue que dans 90% des cas, si c'est pas plus en moyenne, les électeurs, ils votent pour le parti ou pour le chef. Fait que déjà, au niveau du système, tu as une distorsion. C'est pas pour rien que les électeurs, d'ailleurs, trouvent ça frustrant. Quand, notamment, Mme Gladue est élue très fortement depuis plus que 10 ans pour représenter les valeurs conservatrices, et écoute, non les moindres, là, elle est anti-droit LGBTQ, anti-vax, anti-un paquet d'affaires, puis là, elle rejoint les libéraux. Fait que c'est sûr qu'il y a certains transfuges qui passent moins bien. Et c'est là que vient la question, ben, qu'est-ce qu'on fait? Les partiels, tu en as parlé, puis on ne l'a pas mentionné, mais c'est très coûteux aussi. À chaque fois que tu as une partielle, c'est très coûteux. Interdire les transfuges, ça irait dans le sens de renforcer un système où est-ce que c'est essentiellement le parti et les chefs qui ont pratiquement tout le pouvoir. Je pense que pour préserver le peu d'indépendance qu'il reste aux députés, c'est important de leur laisser cette liberté-là. Mais le recall, je l'avais noté, le recall dont parlait Farnell, là, le mécanisme de destitution, si on veut le traduire en français, qu'on voit dans certains États américains, pourrait être une option. Il l'utilise d'ailleurs en Colombie-Britannique avec un seuil qui est beaucoup plus élevé. Cela dit, en Californie, je pense que ça prend une pétition avec 12% des gens qui avaient voté à la précédente élection. En Colombie-Britannique, on parle de 40%, donc c'est un mécanisme qui n'a pas été utilisé encore. Mais ça pourrait être une option, encore une fois, qui n'est pas parfaite, mais au moins qui permettrait de dire mais si le mécontentement et la frustration est tellement grande des concitoyens qui ont élu une personne et que disons, le fait de revirer sa chemise, comme par exemple Mme Gladue, est fait de façon tellement drastique, bien, à tout le moins, il y aurait une option sur la table pour dire, bon, ben dans ce cas-ci spécifiquement, on a assez de gens qui se sont qui ont signé cette pétition-là et qui demandent à ce qu'une élection, une nouvelle élection, soit tenue.
Je pense surtout aussi, peut-être, un rappel à tous les électeurs qu'on... C'est quand on va voter, là, oui, je comprends que la plupart des gens, puis c'est correct, là, je ne remets pas ça en question, votent en fonction du parti politique, du programme et du chef. Mais ça reste que dans notre système, c'est pas comme ça qu'on vote. On vote pour un être humain qui va nous représenter, qui est notre député, et c'est cette personne-là qui nous représente. Quand on voit des choses comme ça, des gens qui se vont d'un parti à l'autre avec, je pense, pas un mandat très clair de son électorat pour le faire, il y a un rappel culturel dans notre culture démocratique de dire aux gens, ben, t'sais, rappelez-vous que vous votez pour un être humain en premier. Et si votre député vous ne le connaissez pas, si vous n'avez aucune raison d'avoir confiance dans la personne pour qui vous votez, peut-être que votre intention, c'est de voter pour un chef ou un parti, mais ça reste que prenez donc les 5 minutes qu'il faut pour vous faire au moins une opinion minimalement informée sur le caractère et le jugement de votre député aussi, parce qu'ils ont le droit de faire ça. Et puis, comme on l'a dit, encadrer ce droit-là sans tomber dans une espèce d'absolutisme des partis politiques, ben, c'est vraiment pas facile à faire. Puis je pense pas qu'on veut aller dans un absolutisme de la ligne de parti non plus. Il y a personne qui veut ça. Non,
et le rappeler aux élus, parce que souvent, c'est des décisions qui sont prises avec une certaine vision à court terme. Parce que d'abord, ce n'est pas un phénomène qui arrive énormément. Là, on a eu plusieurs exemples récemment, mais quand tu regardes l'histoire politique canadienne et québécoise dans son ensemble, ça demeure quand même des cas d'espèce. Je pense que c'est important de le mentionner. Et important de rappeler aussi que c'est loin, loin, loin d'être un gage de succès à long terme. Je suis tombé sur un article de CBC là, qui faisait la recension des 12 transfuges qu'il y avait eu depuis 2004, avant là, ceux de cette législature-ci. Sur les 12 transfuges, tu en as 3 seulement qui ont été réélus dans l'élection d'après sous leur nouvelle bannière, 4 qui ont été battus et 5 qui se sont retirés. On peut penser qu'ils se sont retirés parce qu'ils savaient qu'ils ne se feraient pas réélire. Donc, sur les 12, t'en as 9, donc le 3/4 d'entre eux qui, où est-ce que leur carrière politique s'est terminée suivant ce transfuge-là. Alors, Farnell parlait de rappeler l'importance de considérer la personne quand on va voter. Eh bien, c'est important de rappeler aussi à ces élus-là que c'est un couteau à double tranchant et que ça peut signifier une carrière politique qui prendra fin plus rapidement que tard.
En effet, au Québec, on le sait, la majorité des députés conservateurs canadiens avaient appuyé Jean Charest dans la course à la chefferie et c'est Pierre Poilievre qui a gagné. Est-ce que vous attendez dans les prochaines heures, les prochains jours, avoir 1, 2 ou 3 députés conservateurs francophones traverser la Chambre et aller rejoindre Mark Carney parce qu'il n'y en a pas encore eu, Lambert?
Si je m'attends à ce que des députés conservateurs francophones traversent?
Oui.
Bien, je n'ai pas la réponse à ça. On entend beaucoup de bruit par rapport à... Écoute, je lisais un article du Toronto Star. On parle de 40 conservateurs là, qui se questionneraient sur le leadership assez ouvertement.
Hey, c'est énorme.
De Pierre Poilievre. On parle d'une dizaine qui penserait possiblement, qui envisagerait peut-être de changer de côté. Tu sais, la question après ça, c'est... Bon, d'abord, Pierre Poilievre a quand même fait un score assez fantastique pour un représentant conservateur quand tu regardes l'histoire lors de la dernière élection. A reçu une tape dans le dos lors du congrès conservateur en janvier. Et si c'est pas lui, c'est qui? Tu sais, c'est ça la question. Là. Je veux dire, c'est bien beau de dire on veut plus de lui, mais c'est par qui tu le remplaces? Puis la vérité, là aussi, là, c'est que... T'sais, on s'en est déjà parlé, Jeff, les astres se sont alignés pour Mark Carney, le Parti libéral, d'une façon qu'on a rarement vue dans l'histoire. Qu'est-ce que tu veux? Quand on est en situation de crise comme ça, quand que les électeurs ont peur de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui se passe au sud de la frontière... Il y a toujours le rally around the flag effect. Les gens se rallient à ce qu'ils connaissent déjà. Puis pour un chef de l'opposition de se gouverner dans ce genre de contexte-là, bien franchement, là, c'est extrêmement difficile. C'est pratiquement mission impossible. Alors, est-ce que je pense qu'il y a des députés conservateurs québécois qui vont traverser? Je ne le sais pas. On entend beaucoup de rumeurs. Mais la question que je pose moi aujourd'hui, c'est de dire, ben, si ce n'est pas lui, qui est-ce que ce sera? Et est-ce que ce sera vraiment mieux, tu sais?
C'est intéressant, moi je regarde ça puis je me demande si on n'est pas en train de voir un peu un avenir possible, bon, je dis pas l'avenir définitif, mais un avenir possible de la CAQ avec le Parti conservateur du Canada présentement, dans le sens où le Parti conservateur dans sa forme actuelle, je veux dire, c'est une coalition qui a été formée avec la promesse de 2 choses, que Stephen Harper allait avoir un bras de fer pour maintenir des gens qui avaient toutes sortes d'opinions différentes en dedans d'une grande tente, un grand chapiteau, et que c'était une voie pour avoir le pouvoir. Et je veux dire, c'est un peu la situation avec la CAQ dans le sens où c'est une grande coalition et un grand chapiteau qui a attiré des gens d'un peu partout qui tenaient à la force du caractère de François Legault et à la possibilité d'obtenir le pouvoir. Maintenant, 10 ans plus tard, quand le Parti conservateur n'a pas été capable de reprendre le pouvoir et a vraisemblablement pas été capable de trouver un chef qui était réellement capable de garder cette espèce de coalition-là entre, disons, des conservateurs économiques, des conservateurs fiscaux d'un côté et des conservateurs sociaux de l'autre. Des gens comme, drôle à dire, Mme Gladue, qui sont vraiment là, ailleurs en termes de leur valeur sociale par rapport à, disons, les conservateurs francophones québécois de la région de Québec ou ailleurs. Cette fracture-là, clairement, elle n'est pas encore colmatée. Je crois malheureusement que M. Poilievre a fait campagne en espérant faire face à quelqu'un qui allait lui rendre la vie plus facile avec un Justin Trudeau hyper impopulaire et il n'a pas encore été capable de rajuster le cap. On l'a vu aller par exemple à Joe Rogan et se présenter de façon très conciliatrice, mais on sent qu'à l'intérieur du parti, la fracture, elle s'accentue plutôt que se colmater. Alors, je ne veux pas faire de prédiction là-dessus parce que je ne le sais pas, mais à être un député conservateur, disons conservateur fiscal, quelqu'un qui veut réduire les impôts, faire plus de place aux provinces, mais qui ne se voit absolument pas dans les discours d'identitarisme de droite comme M. Poilievre a fait campagne, ça doit être des questions qui sont difficiles à se poser présentement.
En effet, donc on va vraiment suivre ça de très, très près. Lambert Drainville, c'est toujours un bonheur de te parler. Toujours un bonheur de te faire jouer des extraits du Canadien de Montréal. Je t'en promets un mercredi prochain quand t'arriveras à ta chronique. Farnell, merci beaucoup d'être là chaque vendredi avec nous. Tes propos sont toujours très appropriés. Et merci d'avoir déplacé votre discussion de midi à 13h, les gars, en raison de certains dossiers qu'on ne pouvait pas manquer dans l'heure de midi. Je vous souhaite un bon week-end.
Bon week-end à tout le monde, ça fait toujours plaisir.
Yes, salut les boys. Dans un instant, Boulevard 101, on revient sur la course à la chefferie à la CAQ avec Christine Saint-Pierre, analyste politique et ex-ministre pour le Parti libéral du Québec.